My dear brothers and sisters,
frères et sœurs, chers frères et sœurs, merci de m'avoir soutenu hier comme membre du Collège des 12 apôtres. J'ai du mal à dire combien ça signifie pour moi. Je suis particulièrement reconnaissant du soutien des deux femmes extraordinaires de ma vie, mon épouse Ruth et notre fille Ashley. Mon appel constitue une grande preuve de la véracité de ce qu'a déclaré le Seigneur au début de cette dispensation. Afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde. Je suis l'un de ces faibles et de ces simples. Quand j'étais appelé à être l'évêque d'une paroisse de l'Est des États-Unis, mon frère, un peu plus âgé et beaucoup plus sage que moi, m'a téléphoné. Il m'a dit, « Il faut que tu saches que le Seigneur ne t'a pas appelé du fait de quelque chose que tu as fait. Dans ton cas, c'est probablement malgré quelque chose que tu as fait. » Le Seigneur t'a appelé parce qu'il a besoin de faire quelque chose par ton intermédiaire, et cela ne se fera que si tu agis à sa manière. Je suis conscient que cette parole sage de mon frère aîné s'applique encore plus aujourd'hui. Il se produit quelque chose de magnifique dans le service d'un missionnaire quand il se rend compte que l'objet de son appel n'est pas lui, mais le Seigneur, son œuvre et les enfants de notre Père Céleste. Je pense que c'est vrai aussi pour un apôtre. Je ne suis pas l'objet de cet appel. L'objet en est le Seigneur, son œuvre et les enfants de notre Père Céleste. Quelle que soit notre tâche ou notre appel dans l'Église, pour servir comme il faut, nous devons servir en sachant que la personne que nous servons est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et qu'à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. J'ai été cardiologue, spécialiste des défaillances et des transplantations cardiaques. Comme mes patients étaient très gravement malades, j'ai vu beaucoup de gens mourir. Ma femme dit en plaisantant que c'était mauvais signe de devenir l'un de mes patients. En mettant cette taquinerie à part, j'ai vu beaucoup de gens mourir, comme je l'ai dit. Du fait de mon expérience avec cette population de patients, j'ai appris à prendre une certaine distance émotionnelle quand les choses allaient mal. Cela atténuait la tristesse et la déception. En 1986, un jeune homme nommé Chad a été victime de défaillance cardiaque et a eu besoin d'une greffe de cœur. Il s'est bien porté pendant près de 15 ans. Chad a fait tout ce qu'il a pu pour rester en bonne santé et mener une vie aussi normale que possible. Il a fait une mission, il a travaillé, a été un bon fils pour ses parents. Mais les dernières années de sa vie ont été difficiles. Il a été fréquemment hospitalisé. Un soir, on l'a amené au service des urgences de l'hôpital, victime d'un arrêt cardiaque. Mes collègues et moi avons travaillé longtemps pour rétablir sa circulation. Finalement, nous nous sommes rendus compte que nous ne pourrions pas ranimer Chad. Nous avons arrêté nos efforts vains et j'ai constaté le décès. Bien que triste et déçu, je me suis dit, avec une attitude professionnelle, Chad a bénéficié de bons soins. Il a eu beaucoup plus d'années de vie qu'il aurait eu sans aide. Mais cette distance émotionnelle s'est évanouie quand ses parents sont entrés dans le hall de la salle des urgences et ont vu leur fils décédé sur un brancard. À ce moment-là, précis, j'ai vu Chad avec les yeux de son père et de sa mère. J'ai vu les grandes espérances et les grandes attentes qu'ils avaient eues pour lui, leur désir qu'il vive un peu plus longtemps, puis encore un peu plus et mieux. Prenant conscience de cela, je me suis mis à pleurer. Dans un renversement de rôle paradoxal et dans un acte de bonté que je n'oublierai jamais, les parents de Chad m'ont consolé. Je me rends compte maintenant, dans l'Église, que pour bien servir les autres, nous devons les voir avec les yeux d'un parent, avec les yeux de notre Père Céleste. Ce n'est qu'alors que nous commençons à comprendre la véritable valeur d'une âme. Ce n'est qu'alors que nous pouvons ressentir l'amour que notre Père Céleste éprouve pour tous ses enfants. Ce n'est qu'alors que nous pouvons ressentir la sollicitude aimante du Sauveur pour nous. Nous ne pouvons comprendre pleinement notre obligation contractée par alliance de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation que si nous les voyons avec les yeux de Dieu. cette perspective élargie ouvrira notre cœur aux déceptions, aux peurs et aux chagrins des autres. Mais notre Père Céleste nous aidera et nous consolera, tout comme les parents de Chad m'ont consolé dans la salle des urgences il y a des années. Nous devons avoir les yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur qui sait et ressent pour accomplir le sauvetage auquel le président Monson a souvent appelé. Ce n'est que quand nous voyons avec les yeux de notre Père Céleste que nous pouvons être remplis de l'amour pur du Christ. Nous devons prier chaque jour Dieu de nous accorder cette charité. Mormon a lancé cette exhortation. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. Je veux de tout mon cœur être un vrai disciple de Jésus-Christ. Je l'aime, je l'adore, je témoigne de sa réalité et de son existence. Je témoigne qu'il est loin, le Messie. Je suis témoin de sa miséricorde, de sa compassion et de son amour incomparable. J'ajoute mon témoignage à celui des apôtres qui, en l'an 2000, ont déclaré « Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. » Je témoigne que le Sauveur ressuscité est apparu avec Dieu notre Père Céleste ce jour de 1820 dans un bosquet dans le nord de l'État de New York à Joseph Smith, tout comme il l'a dit. Les clés de la prêtrie sont sur la terre aujourd'hui et elles permettent d'accomplir les ordonnances du salut de l'exaltation. Je le sais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.